Omer Kabuya Ministries est heureux de vous présenter un message inspiré de la parole infaillible de Dieu. Nous désirons par ce message vous encourager, vous motiver à vivre une vie épanouie selon la volonté et le plan de Dieu pour vous. Et maintenant, rejoignons l'Assemblée pour l'écoute de l'enseignement de la parole.
C'est notre prière, Seigneur, que nous recevions un dynamisme nouveau ce soir pour avancer dans la foi. Sanctifie ton serviteur. Voilà une onction particulière et spéciale pour chacun de nous ce soir. On ne puisse pas sortir comme on est venu. C'est ma prière. Reçois toute la gloire et tout honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame la parole. Merci, mon ami. Que Dieu te bénisse.
Pouvons-nous nous asseoir un moment? Je ne sais pas par où commencer. L'émotion est grande. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être là. Il était, je pense, 5 heures du matin. J'ai 3 heures à 4 heures de sommeil dans le corps. Et j'écrivais à papa, je disais merci de me faire confiance avec la chair. La vie peut sortir d'ici comme la mort peut sortir d'ici. Pour l'avoir vu et l'expérimenter, merci énormément. Surtout quand c'est le doyen qui vous reçoit. Alors si tout va bien à Liège, tout va bien partout. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un papa qui, si je lui fais le rapport, il dit merci beaucoup, mais il va les vérifier à sa manière à lui. Il va vérifier que tout s'est bien passé. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être avec vous ce soir. Et hier soir, j'ai commencé par vous expliquer comment est-ce que je me suis retrouvé dans le ministère. Et depuis environ 5 ans bientôt, Dieu a commencé à ouvrir vraiment des portes énormes. Et avant, on planifiait au mois, maintenant on planifie à l'année. On planifie à l'année parce qu'il faut équilibrer le travail à l'extérieur et le travail dans l'église locale. Et c'est bien d'aller à l'international, mais c'est toujours bien aussi de s'occuper de son assemblée locale, parce que ce sont les gens qui vous ont supporté dans votre genèse, et il faut être là pour eux. Et on essaie d'équilibrer. Alors, depuis, je pense que c'est officiel, la télévision enseignement, en tout cas, a été lancée, et normalement, on est supposé être dessus si tout va bien. Et Dieu permet que des petits Montréalais, moins 20 Canadiens, puissent être à la télévision internationale. Quelqu'un me disait, oh, pasteur, on t'a vu à Kinshasa. Je dis, ah bon, ok, c'est bien. Mais le Seigneur ouvre des portes comme ça pour que nous puissions le servir avec la technologie qu'il met à notre disposition.
Ouais.
Et nous demandons aussi à nos frères d'origine congolaise de nous supporter. Nous devons être... Vous savez ce que j'aime des Américains? Les Américains, ils ont cette habitude de fabriquer leurs héros. Quelqu'un peut être faible, hein? On dit, oh, he's a great man. Et tellement qu'ils disent ça, tout le monde croit. Et pour pouvoir faire ce ministère à la télévision, répondre aux exigences du ministère, ça prend des gens qui nous supportent, des gens qui nous appuient. Et comment vous pouvez nous appuyer? Il y a deux manières. Pour ça, c'est surtout pour les jeunes. J'étais avec eux cet après-midi, c'était merveilleux. Donc, j'ai pu reprendre mes anciens styles de jeunes. Et on vous demande juste d'aller sur notre page Facebook du ministère. Vous tapez sur Facebook Omer Kabuya. Vous allez pouvoir me trouver et vous pouvez faire un petit j'aime pour signaler que vous aimez notre ministère. Alors, il y a quelques matériels que nous avons ici. Premièrement, je vais commencer par le dernier né qui est en train de naître. Il naît sous vos yeux. C'est le ce coffret ici, passer du désert à l'abondance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a préparé le coffret et vous avez l'occasion à la fin du service, il y aura une table de littérature. Vous pouvez aller le commander pour 20 €, 3 CD qui sont bien présentés quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du séminaire, nous allons juste prendre les commandes et nous allons les retravailler et pouvoir vous les laisser à votre disposition afin que vous puissiez les avoir. Pourquoi avoir les CD? Je disais là hier que j'ai pas fait l'école biblique, mais j'avais une passion, la lecture de la parole et écouter des messages. Et à un moment donné, c'est que j'écoutais a commencé à se transvaser en moi. Et beaucoup de chrétiens, ce qu'ils font, ils écoutent la prédication, ils notent ce qu'ils peuvent, mais ils oublient. Et la parole ne peut pas faire un travail en eux. Mais si vous voulez que la parole de cette fin de semaine, on dit fin de semaine ou week-end, week-end. Bon, parce que chez nous, on appelle ça un anglicisme. Alors, on ne dit pas un hamburger, on dit un hambourgeois. Expliquez-moi. Alors, vous pouvez vous le commander ici, d'avance, permettant que, avant que le séjour soit terminé, les équipes au Canada, ils attendent les fichiers audio, nous allons les retravailler afin de pouvoir les avoir ici. Il y a quelques exemplaires qu'on peut multiplier, donc vous pouvez les commander pour 20 euros. Combien coûte une coiffure ici, coiffer les cheveux? 10 euros pour des cheveux qui vont repousser. Pour les hommes, pour les dames, 150-200. Voilà, 150-200. Quand il parle comme ça, c'est un célibataire. Un homme marié, il dit divisé par deux. Voilà, voilà. Vous pouvez vous le procurer en arrière. En complément à l'enseignement de ce soir, et ça je vous le recommande, il y a une série de messages ici, 4 types de tempêtes, comment y survivre. Je vous le recommande en complément. Les deux, normalement, vont de pair. Et je parle ici dans ce message sur 4 types de tempêtes qu'on rencontre dans la vie, parce qu'il y a 3 étapes dans la vie. Soit on est dans une tempête, ou on sort d'une tempête, ou on s'en va dans une tempête. Donc chacun ici est dans une de ces étapes-là. Là, je parle de la tempête des fondations, la tempête de transition, la tempête de réajustement et de la tempête collatérale. Alors si vous voulez savoir, juste vous le procurer. Les prix vont varier, mais on ne dépasse pas le 30 euros. Il paraît que vous êtes très gentil ici. Alors on va faire ça comme ça. Le dernier né ici, c'est le roi sans trône. 3 messages. Ce message ici sont nés dans un temps de jeûne. Je me souviens, j'avais introduit le temps de jeûne à l'église. Et puis, le lendemain, je vais au travail et puis on me dit, monsieur, vous êtes remercié. Je ne l'avais jamais vu venir. Et j'avais un séminaire que je devais enseigner. J'étais découragé et je suis rentré dans la prière. Pendant 2 semaines, je pleurais devant Dieu. Je pense que j'avais la face d'Abraham parce que j'avais une barbe terrible. Et j'ai prié. Et Dieu a commencé à me parler du roi sans trône. Et c'est 3 messages. Le premier message parle du Dieu des 100 noms. Comment Dieu prend des gens qui n'ont pas de grands noms de famille et Dieu est capable de les propulser au sommet. Et Dieu prend un David qui n'a pas de nom, mais arrive à le propulser au sommet. Je parle du roi sans trône, des frustrations que nous vivons en attendant de rentrer dans notre gloire avec le Seigneur, en attendant de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Et finalement, je parle de 5 champs de bataille. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu arrives au sommet? Lorsque tu as tout réussi et puis que rien ne te bloque dans ce que tu veux. La drogue que tu ne pouvais pas te payer, tu peux te la payer. Comment vivre sa gloire? Alors, ces messages sont là. Vous pouvez vous les procurer. Celui-ci, je le recommande. Pasteur, je vous en supplie. Il est très important. Si vous aimez votre église, ça c'est 10 euros simplement. C'est 4 esprits destructeurs. Je vous le recommande vitalement. Tout pasteur qui s'aime et qui aime son église va l'avoir. Là, je parle des 4 types d'esprits qui travaillent dans les églises pour détruire les églises, qui détruisent les chrétiens. Et j'explique comment ces esprits opèrent en collaboration les uns avec les autres. J'étais parti dans une église et puis ils m'avaient pris par surprise pour prêcher. Et puis, Saint-Esprit me dit de prêcher ça. Et quand je prêche, je ne savais pas que j'étais en train de raconter tout ce qui s'est passé dans l'église. Et quand j'ai terminé, le pasteur a perdu le ministère d'intercession. Parce que c'est des gens qui étaient en train de collaborer pour casser. Est-ce que vous ai refroidi?
Non.
D'accord.
C'est juste.
D'accord. Donc, alors je vais offrir ça à quelqu'un ce soir. Chez nous, là, c'est la partie où les gens lèvent.
Amen.
Voilà. Alors, je vais l'offrir en fait les 4, mais celui-ci quand il sera prêt. Alors, je vais offrir à Papa Mouzembe. Comme je n'ai pas l'occasion d'être chez vous, voilà. Ça me fait plaisir que le fils puisse offrir à son papa. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci.
Donc, Maman Jeanne, on réglera nos dossiers après. Alléluia. Voilà, on va passer à l'enseignement de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Si vous me voyez avec mon téléphone, en fait, c'est que je m'enregistre en même temps. Donc, j'explique un peu mes habitudes. Ce soir, on va essayer d'aller rapidement, être succinct et puis pouvoir passer à l'essentiel. Nous allons lire 3 textes de la parole de Dieu, 3 textes très courts de la parole de Dieu. Le PowerPoint va apparaître ici devant nous. Le premier, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 5 au verset 6. Deutéronome, chapitre 29, le verset 5 au verset 6. Ce soir, nous allons parler, hier nous avons parlé de pourquoi dois-je passer par le désert? Ce soir, nous allons parler de comment gérer son désert. C'est bien de passer par le désert, mais un désert qui est mal prolongé peut créer la mort. Un désert qui est mal géré peut créer une prolongation de ces déserts. Il existe ces bergers, les bergers Touaregs, qui ont la capacité de gérer le désert et de survivre le désert, alors que toi et moi, si nous rentrons dans le désert, 24 heures plus tard, nous sommes morts. Deutéronome, chapitre 29, le verset 5 au verset 6. La parole de Dieu dit, « J'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Second texte sera dans Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41, le verset 17 au verset 19. Ésaïe 41, verset 17 au verset 19. La parole de Dieu dit, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu de la vallée. Je changerai leur désert en étang et leur terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble. » Le dernier texte sera toujours dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, le verset 27 au verset 31. Ésaïe 40, verset 27 au verset 31. La parole de Dieu dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël m'a destiné et caché devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatigue point. Amen.
Amen.
Seigneur, je prie que tu puisses nous parler ce soir. Il y a la matière préparée, mais il y a aussi ce que l'Esprit veut appliquer au cœur de chacun.
Amen.
Pendant que je suis en train de prêcher cette parole, renouvelle mon intelligence, renouvelle la force physique. Je prie que tu puisses parler à quelqu'un ce soir, que quelqu'un découvre comment gérer son désert. Tu ne nous envoies pas dans les déserts pour mourir, mais Seigneur, tu veux que nous puissions survivre. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, depuis hier soir, nous avons commencé à parler sur cette grande thématique dans l'année de grâce, qui est le thème principal de l'Église. Nous avons commencé à parler sur la thématique de passer du désert à l'abondance. Nous avons vu que c'est possible pour nous de transformer notre désert, ça veut dire les temps difficiles que nous vivons, les temps de manque que nous vivons. Nous pouvons les transformer dans des temps d'abondance. Nous avons vu hier soir qu'il existe deux types de déserts, deux catégories de déserts. Nous avons parlé des déserts qui sont des déserts cycliques. Ça veut dire que c'est des déserts de propulsion, des déserts par lesquels Dieu lui-même nous conduit afin que nous puissions être raffinés. Dieu se sert du désert comme un marteau afin de nous casser, afin de nous briser, afin de nous transformer et de nous donner la forme finale. La plus grande tragédie qui puisse exister, c'est de voir quelqu'un aller à la tombe à l'état neuf. Donc, il a évité tous les brisements que Dieu avait pour lui, il a esquivé tous les problèmes, tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Pour simplement dire que je veux vivre une vie normale. Mais en réalité, Jésus dit que si le grain ne tombe en sol, et ne meurt, ce grain-là, s'il ne passe pas par son désert, il ne peut porter du fruit. Donc, l'utilité dans notre plan, dans la destinée que Dieu a pour nous, passe nécessairement par des enterrements et des résurrections, passe par des déserts, passe par des temps de désert, des temps de transformation pour avoir la forme finale. Et je dis toujours que lorsque tu es devant, tu m'entends en train de donner un bon message, ce sont tous mes déserts qui sont en train de te prêcher. Ce sont les déserts que tu es en train d'apprécier parce qu'il a fallu que je passe par certains déserts afin de développer certaines compétences qui me permettent aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Quelqu'un dit amen. Nous avons parlé de ces déserts-là, que Dieu les envoie, que nous ne pouvons pas les éviter. Nous avons aussi parlé d'un deuxième type de désert, qui sont les déserts qui ne sont pas cycliques, mais qui sont des déserts que j'appelle hors saison, parce que les déserts cycliques, ils viennent dans certaines saisons. Dans certaines saisons, Dieu t'envoie au désert. Jésus, baptisé du Saint-Esprit, fut conduit par qui dans le désert? Jésus baptisé fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc, passer par le désert n'est pas nécessairement toujours le diable. Et je suis convaincu que le diable est moins actif que nous le croyons. Je suis convaincu que les sorciers sont moins actifs que nous le croyons. Nous avons parlé aussi qu'il existe des déserts non cycliques hors saison, qui sont des déserts que nous provoquons nous-mêmes. Exemple, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps, que tu prolonges tes jours. Donc, il est possible pour nous de prolonger nos jours. Quand la loi de l'honneur est brisée, il se passe une soustraction sur le nombre de jours. Amen. Nous avons parlé de certains déserts qui nous arrivent parce que nous sommes engagés dans des mauvaises décisions que nous prenons. Des déserts qui se prolongent. Je me souviens d'une sœur, elle était là, vous savez, hein, elle était métisse. Et puis un frère vient la voir et le frère dit, sœur, j'aimerais te marier. Et puis la sœur dit, vraiment, regarde-toi comment tu es habillée, etc. Elle a vraiment nettoyé le frère, lavé, blanchi, sanctifié, quoi. Et puis finalement, le frère très découragé, le frère se tourne vers son ami. Et l'ami, elle attendait que ça, hein. Elle a récupéré la balle. Elle a récupéré la balle comme un bon Ronaldo. Et puis, elle a dit, oui, moi, je vais te marier. Et puis, ils se sont mariés. Et puis, l'autre ami a commencé à faire des crises de jalousie pour une sortie du désert qui lui était offert. Elle a fait des crises de jalousie. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours pas mariée. Un désert qu'elle a créé elle-même. Parfois, l'homme ne vient pas dans la forme finale. Il vient à l'état brut. Et ton travail, ma sœur, c'est de le tailler pour qu'il ait la forme finale. Parfois, c'est ça. Parfois, il ne vient pas beau comme tu veux. Dis-lui qu'il est beau. Tu vas voir des cellules commencer à se réajuster. Amen. Amen. Il n'y a rien qui vient, Dieu ne vous donnera rien en forme finale. Il vous donne tout à l'état brut. Il vous donne Canaan à l'état brut. Il dit conquérir, allez conquérir Canaan. Il vous donne la puissance, mais ne guérit pas les malades. Il vous donne les malades. Il dit guérissez les malades. Il y a beaucoup de gens qui aiment tout à l'état fini. Dieu donne tout à l'état brut. À toi de travailler ta bénédiction. Amen. Amen. Donc, il est important pour nous de pouvoir saisir. Il y a des déserts qu'on crée nous-mêmes. J'ai vu une sœur, un frère l'approche. Dis-moi jamais de la vie. Elle voulait appeler le frère pour l'insulter. J'ai dit, ma chérie, calme-toi. J'ai dit, si tu veux lui dire non, dis-lui non avec une telle tendresse qu'il va être heureux. Car tu ne sais jamais, peut-être que tu marieras son ami. Donc la façon dont tu dis non peut te fermer des portes demain. Sois gentil, parce que tu ne sais pas à qui il peut te référer. Il y a des déserts que nous créons nous-mêmes. Des déserts que nous créons par des prêts, des emprunts d'argent que nous faisons. Nous sommes spécialistes. Nyongo, Devisa. Tu regardes un prêt, tu n'as même pas regardé le taux d'intérêt. On dit, Seigneur, bah oui, je signe. Comme une sœur qui arrive à l'église de, à un moment de témoignage, elle dit, pasteur, je suis béni. Elle venait d'arriver au pays, hein. Je suis béni. La banque m'a donné une carte de crédit de 10 000 dollars. S'il y a un problème au pays, je fais le compte. Bon, l'argent sort. S'il y a un problème avec qui je prends, bon, l'argent sort. Mais elle n'a pas calculé que ce que tu prends, tu dois le remettre avec intérêt. Donc, elle s'engage dans un désert. Les gens s'engagent dans un désert par des décisions permanentes prises sur des situations temporaires. Il y a beaucoup de gens qui créent leur propre désert et puis ils sont spécialistes d'avoir des sorciers partout. Frère, les sorciers ne sont pas aussi efficaces que tu ne le penses. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les gens voient des sorciers partout? Nous sommes devenus des spécialistes des rêves. Nalo taki, namona ki. Peut-être tu avais tout juste trop mangé. Il y a des déserts que nous créons nous-mêmes, en manquant de respect à nos aînés, manquant de respect à nos parents. Maman est sorcière, c'est vrai, mais depuis que tu étais petite, elle t'a pas mangé. Mais soudainement, elle est devenue... Frères et sœurs, il y a des déserts que nous créons nous-mêmes. Et nous disons que le diable a attaqué, ce n'est pas le diable. Le désert. Oh, aujourd'hui, je ne trouve pas du travail. Frère, si tu avais été à l'école, tu aurais trouvé. Le désert, un frère un jour trouve un emploi, un très bon emploi. Après un long désert, il ne trouvait pas du travail. On a prié, il a trouvé du travail. Mon frère, ma sœur, et puis il y a eu un deuil. Malheureusement pour lui, il est parti au deuil, il s'est assis. Et puis il a commencé, un tel a fait, 2h du matin, 3h du matin, 4h, il dit, ah, faut que j'aille parce que le lendemain je travaille. Il arrive au bureau, en train de dormir, le patron est en train de passer. Il dit, monsieur, viens un peu ici. En fait, ton travail est terminé. Est-ce que vous pensez que c'est le diable qui l'a attaqué? Il a créé son propre désert. Dieu l'a sorti du désert. Lui-même, il est parti créer un nouveau désert pour entrer dedans. Frère, il y a des déserts que nous créons nous-mêmes. Quel est le désert que tu traverses? Comment il s'appelle? Il y a des déserts que nous créons nous-mêmes. Il y a dans la parole de Dieu des gens que j'appelle les champions du désert. Parce que un désert peut vous tuer, mais un désert peut aussi vous propulser. Qu'importe la nature du désert que vous traversez, il y a toujours une porte de sortie. Un désert a un commencement et un désert a une fin. Tout désert a un commencement. Mais ce que je veux te dire, c'est que la Bible nous dit dans les textes que nous avons lus que même dans un désert, tu peux transformer ton désert en oasis. Tu peux transformer ton désert, tu peux apprendre à gérer ton désert et être capable de survivre et de t'en sortir. Quelqu'un dit amen. Joseph va connaître un désert de 17 ans. Au bout de 17 ans d'un désert, cet immigrant, Joseph, devient l'homme qui contrôle l'Égypte. Mais j'aime dire qu'il ne contrôle pas l'Égypte, mais il contrôle le système économique d'Égypte et contrôlé par un étranger. Voilà pourquoi je parle à nos jeunes. Il faut pas parler de toi simplement en termes d'immigrants. Parle de toi en termes de quelqu'un en qui Dieu a déposé une richesse. Je disais à nos jeunes, regarde-toi comme une mine de diamants. Regarde-toi comme un gisement de pétrole. C'est impossible que Dieu vous déplace en Belgique et veut que vous soyez simplement les derniers au banc de la société. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de te prendre en bas et de te propulser. Et nous devons parler à nos jeunes de manière à ce qu'ils aient une mentalité de conquérant et non une mentalité qui subit la dictature des circonstances. Je parle à nos jeunes pour dire, il faut se rebeller contre la dictature des circonstances et déclarer que je suis de la race de Joseph, prédestiné à Dieu pour le sommet. Je ne suis pas prédestiné pour la médiocrité. Je suis prédestiné pour le sommet. Je suis une richesse que la Belgique n'a pas encore découverte. Je suis une richesse que l'Occident n'a pas encore découverte. En moi, Dieu a déposé un potentiel dont la Belgique a besoin. À cause de moi. Alléluia. Frère, tu dois croire qu'à cause de toi, la Belgique deviendra un meilleur pays. Tu dois croire qu'à cause de toi, la Belgique va prospérer à cause de toi. De la même façon que Potiphar a prospéré à cause de Joseph. À cause de toi, ce pays est en sécurité. Frère, quand tu commences à croire ça, tu marches différemment. Moi, je suis rentré dans le centre d'achat, je commence à interroger le policier. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu es armé? Menace terroriste, qui menace qui? Frère, tu es une bénédiction ambulante. Tu es une bénédiction ambulante. Le problème que nous avons, c'est que nous croyons à la dictature de nos circonstances. Ça va mal, je vais mal. Ça va bien, je vais bien. Non, à un moment donné, tu commandes aux choses de changer autour de toi. Quelqu'un dit amen. Après 20 ans de désert, David devient roi d'Israël. Après 40 ans de désert, Josué devient celui qui va conduire le peuple à la conquête du pays promis. Après beaucoup d'années de désert, Zacharie et Élisabeth reçoivent un enfant. Cet enfant devient le plus grand prophète de l'Ancien Testament. après un temps de désert, la Bible nous raconte l'histoire de cette femme, et j'en parlerai demain beaucoup, qui dit que mon mari était un prophète, il est mort, il m'a laissé pauvre. Mais elle va rencontrer un homme de Dieu qui lui dit, va chercher de l'huile. Va chercher des vases. Et dans ces vases, met de l'huile. Et elle reçoit les vases. Elle met de l'huile dedans. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle a tous les instruments nécessaires pour sortir du désert, mais elle n'a pas l'idée qui va propulser sa sortie du désert. Frère, je prie que Dieu te donne une idée qui va te sortir de la pauvreté. Je prie que Dieu te donne une idée. Prie Dieu. Ne prie pas Dieu pour un emploi. Tu pries trop bas. Prie pour une idée. Seigneur, je prie pour une idée. Une idée qui va faire que la génération après moi vivra ne vivra plus dans la pauvreté. Pendant longtemps, j'ai prié pour que les chrétiens deviennent, les chrétiens aient des emplois. Je ne veux plus prier comme ça. Je prie qu'ils aient des idées. Pour qu'ils deviennent les patrons. Qu'ils deviennent ceux qui embauchent. Seigneur, fais de moi une solution en Belgique. Fais de moi une solution au problème de chômage. Seigneur, là où je me tiens, donne-moi une idée. Donne-moi une idée d'entreprise, donne-moi une idée de quelque chose qui va faire que la communauté entière sort de la pauvreté. Et cette femme a tous les éléments pour prospérer. Tous les éléments, mais beaucoup de gens ici ont tout pour prospérer. Mais tout ce qui manque, c'est l'idée qui va rassembler toutes les choses et qui donne un sens. Elle va voir le prophète lui dit, prends l'huile, vends, et paye tes dettes. Et c'est là que l'idée de créer l'entreprise est venue. Frère, Dieu nous a pas envoyé en Belgique pour vivre citoyen de second rang. Dieu nous a pas envoyé pour vivre dans la pauvreté. Dieu veut qu'on soit bien. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Mon frère, ma sœur, la Bible nous parle de ce paralytique de Bethesda qu'après 38 ans de paralysie, l'homme va connaître une guérison spectaculaire. Frère, je crois dans le Dieu de l'extraordinaire. Je crois dans le Dieu qui fait des prodiges. Nos mentalités ont trop été affectées par des échecs continuels au point que nous pensons que l'échec, c'est la norme. Mais Dieu que je te parle aujourd'hui est capable de te prendre là où tu es et de te propulser au sommet. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Il faut que ta dimension de prière change afin que Dieu puisse se manifester. Il existe six caractéristiques du désert. Pourquoi ces six caractéristiques nous aident? Premièrement, un désert peut être un lieu où Dieu nous permet de passer pour une auto-évaluation. Dieu te permet, passe dans le désert pour t'auto-évaluer. Un serviteur de Dieu un jour, le Seigneur lui disait, arrête le ministère un moment, arrête le ministère un moment. Il ne voulait pas s'arrêter. Bon, Dieu s'est arrangé, Dieu lui envoie une petite maladie et puis il est cloué au lit d'hôpital. Dieu dit, ça fait longtemps que je voulais te parler. Maintenant, tu es disponible pour que je te parle. Un désert, les gens qui apprennent à gérer leur désert, c'est les gens qui, dans le désert, apprennent maintenant à s'auto-évaluer. Psaume 136, le verset 1 dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me couche et quand tu me lèves. La parole n'est pas déjà dans ma bouche que déjà tu la connais. Où irais-je loin de ton esprit? Où ferais-je loin de ta face? Et il finit le psaume 136 en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dans un désert, l'important pour nous, à un moment donné, c'est d'arrêter de blâmer tout le monde. Mais de s'arrêter de faire une auto-évaluation. Qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce qui m'a emmené là? Comment je me suis retrouvé là? Dieu permet parfois le désert pour que tu t'auto-évalues. Sinon, tu vas vivre une vie du lundi au vendredi, comme on dit en Amérique du Nord, 9 à 5. Je me lève le matin, je me couche le soir. Je me lève le matin, je me couche le soir. Je me lève le matin, je me couche le soir. Et tu vas voir que tu as fait 10 ans en Belgique. Quand on te demande concrètement qu'est-ce que tu as accompli, tu n'as rien accompli. Voilà pourquoi parfois un désert est thérapeutique. Dis à quelqu'un, un désert peut être thérapeutique. Dis à quelqu'un, un désert peut être thérapeutique. La deuxième caractéristique du désert, un désert peut être aussi un lieu de révélation de Dieu. C'est un lieu où Dieu permet il te permet de mieux le connaître. Un lieu où Dieu te permet d'écouter sa voix parce que tu n'as pas d'autre choix que d'écouter sa voix. C'est un lieu où toutes les voix secondaires que tu avais ne fonctionnent plus et tu n'as pas de choix que d'écouter la voix de Dieu. C'est ce que le psalmiste exprime lorsqu'il dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Et c'est tellement malheureux que j'ai entendu des frères de la communauté dire que nous sommes arrivés en Occident, c'est le terminus. C'est pas le terminus. Ce lieu ici, si vous ne faites pas attention à l'Occident, c'est le tombeau de la foi. C'est le cimetière de la foi. Vous gardez l'apparence de la foi, mais vous perdez le dynamisme de la foi, ce qui fait la force de la foi. Mais Dieu permet certains déserts. Il veut te dire, écoute-moi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te réorienter, j'ai besoin de te donner une direction nouvelle. Amen. Dieu permet un désert comme un lieu d'auto-révélation, un lieu où je commence à ne plus regarder autour de moi, mais je commence à regarder à l'intérieur de moi ce que Dieu a mis. Frère, la plus grande découverte que tu puisses faire, c'est la découverte de toi-même. Le jour où tu te découvres, tu comprends que tu es un gisement de pétrole. Tu comprends que tu es une mine de diamants. Tu comprends que tu es une rareté. Et Dieu a raison de te dire qu'il te garde comme la prunelle de ton œil, car on ne garde que ce qui est important. Si tu n'étais pas important, Dieu ne te garderait pas. Mais parce que tu es important, Dieu te garde. Et tu comprends alors que tu as une particularité dans ta génération, que tu es spécial, qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi, et il n'y en aura jamais. Tu es unique dans toute l'histoire de l'univers. Dieu t'a créé spécial. Le jour où je me suis découvert, j'ai littéralement explosé. Et j'ai compris la parole de Psaume qui dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Frère, quand tu comprends ça, même le miroir a de la chance de te regarder. Tu dis, frère, il faut que tu te découvres. Et Dieu permet le désert pour que tu découvres ce qu'il a mis en toi. Je ne savais pas que Dieu avait mis en moi un prédicateur. Le désert m'a fait découvrir qui j'étais. Je pensais que j'étais un rappeur. Yo, man, ça. Je pensais que j'étais un politicien. Mais j'ai découvert que Dieu a mis en moi sa parole. Et lorsque je prêche, les gens sont motivés à se lever. Ils sont motivés à faire mieux dans la vie. Frère, tu n'es pas une carcasse, tu n'es pas un cadavre. Tu es vivant. Dieu a mis en toi des richesses enfouies que tu n'as pas encore découvert. En toi sommeille un poète, en toi sommeille un écrivain, en toi sommeille un chef d'entreprise. Mais Dieu permet le désert pour que le gisement puisse jaillir à la surface. Il faut passer par le désert. Il faut passer par le désert. Le désert n'est pas la mort. Le désert est une traversée nécessaire pour une propulsion vers le sommet. Et Dieu t'a créé pour le sommet. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise dans certains milieux, parce que ce n'est pas ta place. Frères et sœurs, tous les oiseaux volent, mais les aigles volent à une attitude spéciale. Tous les oiseaux volent, mais ils ne prennent pas leur vol au même point. Les pigeons prennent leur vol à partir du sol. Les aigles prennent leur vol à partir du sommet. Ils attendent un certain vent particulier qui doit venir, avec un certain courant. Voilà pourquoi, lorsque les gens d'école restent tranquilles, ton vent n'est pas encore arrivé. Ton opportunité n'est pas encore arrivée. Attends le vent de Dieu et Dieu saura te propulser. Regarde-toi comme un trésor, regarde-toi comme une richesse. Ne te regarde pas comme un immigrant. Dieu s'est servi de l'immigration pour te mettre dans le contexte de ta propulsion. Dieu s'est servi de l'immigration pour te mettre dans un contexte. Dieu savait que s'il te gardait au Congo, tu ne pouvais pas aller loin. Dieu t'a emmené en Belgique pour que tu sois un trésor, une richesse, pour que tu ailles de l'avant. Et Dieu permet le désert pour que maintenant tu puisses y découvrir. Frères et sœurs, je vais te dire des vérités ce soir. Vous savez, ça fait 10 ans que je n'ai pas été à un salon de coiffure. Et j'ai grandi, ma mère me disait toujours en Tchouba, ou du bien, Zabi, Mujitu. Elle disait, oh, je parle en langue, là. Elle disait que, tu as les mains lourdes, tu ne sais pas comment faire grand chose avec tes mains. Et ça a conditionné mon mental. Et toute ma vie, tous les travaux manuels, je les ai évités. Et puis, un jour, j'ai eu des enfants. Et puis, je les ai amenés au salon de coiffure. On coiffe les garçons, et moi, on me demande $50, plus le pourboire. Là, je paye une fois, deux fois. Mais c'est difficile, coûte cher, hein? Parce qu'après ça, on n'a pas coiffé les dames. Et puis un jour, je dis non, non, je peux pas. J'avais pas d'argent. Dieu a permis un désert. Et je dis non, je vais essayer de coiffer moi-même. D'abord, là, je commençais à me coiffer. Là, je me blessais dans tous les sens. J'ai commencé à coiffer les garçons. Aujourd'hui, j'ai maîtrisé la coiffure grâce au désert. Dieu permet certains déserts pour que tu maîtrises certaines aptitudes. Dieu permet le désert pour que tu maîtrises certaines choses qu'il a mis en toi. Il n'y a que quand tu manques que tu réfléchis comment t'en sortir. Amen. Et c'est quand j'ai commencé à manquer d'argent
que je commençais à me débrouiller pour coiffer les garçons. Aujourd'hui, quand ils passent, on pense que c'est un coiffeur, c'est moi. La même personne à qui on disait, tu as les mains lourdes. Qu'est-ce qui a conditionné ton mental qui te fait croire que tu n'es pas capable comme les autres? Qu'est-ce qui a conditionné ton mental qui te fait croire que tu es un citoyen de second rang? Moi, je dis une chose. Si on nous met égal pour égal, qu'on doit compétitionner, je sors le meilleur. Je sors le meilleur. Je suis né pour réussir. Je suis né spécial. Je suis né grand. Je suis né puissant. Dieu a déposé quelque chose en moi de puissant dont tu as besoin, dont ma génération a besoin. Dieu a déposé en toi quelque chose de puissant dont tu as besoin, dont ta génération a besoin. Mais tu ne t'es pas encore découvert. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas encore découvert? On devient une imitation. On imite tout le monde. Dieu te crée un original. Tu veux vivre comme une photocopie. Tu veux vivre comme une photocopie, photocopie des autres. Non, frères et sœurs, il a fallu que je me retrouve à manquer pour que j'apprenne à coiffer. Quelque chose qu'on m'avait conditionné comme étant pas capable. On m'a dit, tu ne pourras pas finir l'école universitaire. Parce qu'à un moment donné, dans le chemin de la vie, j'ai fait des erreurs. Et puis, pendant 10 ans, je n'ai pas été à l'école. Le jour où Dieu a permis que j'ai l'opportunité, j'ai fait un programme de 4 ans en 2 ans avec les meilleures notes. Frère, tu es capable. Ne laisse pas les circonstances dicter ton langage. Ne laisse pas les circonstances dicter ta vie. Mais frère, crois que Dieu a déposé en toi tout ce dont tu as besoin. Dieu t'a créé riche. La richesse n'est pas dehors. La richesse est dedans. La richesse est dedans. Le diable te combat parce qu'il voit en toi ce que tu n'as pas encore vu. Les gens sont jaloux parce qu'ils voient en toi ce que tu n'as pas encore vu. Si tu savais qui tu es, tu te respecterais. Jeune fille, si tu savais qui tu es, tu porterais des jupes plus longues. Mais parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es, alors tu mets les jambes dehors comme des pains qu'il faut donner à tout le monde. Découvre-toi. Le désert. Le désert, comme je disais hier, le désert. Car es-tu du désert? Vous êtes bénis ce soir. Le désert est une école de larmes et d'humilité. Il faut passer par le désert pour être humble. Et parfois, lorsque Dieu veut t'élever, Dieu te passe par des déserts d'humiliation pour que tu apprennes à respecter la souffrance des autres. Parce que lorsque Dieu te propulse au sommet, si tu n'es pas passé par les mêmes souffrances, quelqu'un va te dire « Mon père est mort ». Tu dis « Alléluia, ne pleure pas, sois dans la joie, il est avec le Seigneur ». Mais oui, tu n'as jamais perdu le tien. Mais lorsque tu commences à perdre un emploi, quelqu'un te dit « Pasteur, j'ai perdu un emploi ». Frère, je te comprends. Tu développes la compassion de Dieu parce que tu es passé par les mêmes choses. Et Dieu permet certains déserts. Regardez. Tous les déserts dans la vie de Joseph le permettaient de le préparer pour le sommet. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il apprend la gestion, c'est pour la gestion du sommet. Quand il apprend à gérer les prisonniers, dans la prison de Pharaon, qu'est-ce qu'on parlait là-bas? De la politique, de l'économie, de tout ce qui s'est passé dans le pays. Donc, avant même d'être au sommet chez Pharaon, Joseph savait déjà ce qui se passait dans son désert. Dieu l'avait préparé. Dieu ne te permet pas de passer dans un désert en vain. Amen. Caractéristique numéro 5, le désert est une école de formation du caractère. Il n'y a pas d'élévation sans le sommet. Mon frère, ma sœur, prêcher comme je le fais depuis 20 ans. Le caractère, depuis 5 ans. Frère, le caractère va t'emmener là où le talent ne peut pas t'emmener. Le talent n'est pas assez. Le don n'est pas assez. Il faut le caractère. Genre, on te cède la serre. Merci. On n'est pas obligé de te la céder. C'est le caractère. La douceur. La patience. Les choses ne te plaisent pas, mais tu as la maîtrise de soi. Valoriser les autres. Comprendre que d'autres peuvent faire la même chose que toi. Le caractère. Et beaucoup de gens, et c'est triste, hein, tu peux voir une jeune dame, elle est jolie, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Tu dis, oh maman, fallait te taire. Vous étiez jolie jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche. Fallait vous taire, Seigneur. Et tu as envie de faire retour vers le passé pour dire, mute, ce moment n'est jamais arrivé. Cop and paste. Frères et sœurs, le caractère. Beaucoup de gens n'ont pas le caractère. Le caractère de la discrétion. Tu ne peux pas entendre quelque chose de quelqu'un de sale et puis tu te tais. Non, il faut que tu ailles le dire à quelqu'un. Tu te passes par le désert. Ce désert-là, le but, c'est que tu apprennes à te maîtriser. Tu sais que quelque chose va mal. Comme Jésus, il sait que Judas va le trahir. Judas est un traître, mais Jésus est calme. Il dit, je ne laisserai pas sa méchanceté dicter mon comportement. Amen. Il y a des déserts que Dieu te fait passer comme ça pour que tu apprennes à développer ton caractère. Je me suis développé au milieu de l'adversité. Je me suis développé au milieu de l'opposition. Que tu arrives, tu prêches, tout le monde cherche l'erreur dans la prédication. Et tu prêches comme s'il y a le feu derrière toi. Là, tu prêches. Tout le monde te regarde. Tu prêches pourquoi? Et le caractère se développe. Tu apprends à rester calme sous la pression. Il y a des gens ici, si on met 10 000 euros dans tes mains, on te voit plus à l'église pendant 6 mois. Le temps que tu ailles consommer. Et Dieu te passe par le désert de manque. Il te permet que tu as 10 000, tu perds. 10 000, tu perds. Jusqu'à ce que tu apprennes que ce n'est pas ce que tu as entre tes mains qui compte, mais c'est plutôt Dieu qui détient ce que tu as entre tes mains qui compte. Donc, tu peux perdre le matériel, mais garder la source du matériel. Car la source est plus importante que ce que la source peut produire. Un homme, quelque part, avait servi son maître pendant longtemps. Il a servi son maître, servi son maître. Son maître dit, oh serviteur, tu m'as servi fidèlement. Il dit, j'ai un seul fils. Malheureusement, c'est lui l'héritier de tous mes biens, même si c'est un mauvais gestionnaire. Parmi tous mes biens, choisis une seule chose. Tu as 24 heures. Et puis, il s'en va réfléchir. Il réfléchit. Il dit, qu'est-ce que je vais demander à mon maître? Est-ce les voitures? Non. Les voitures tombent en gagne. Il dit, maître, j'ai une seule demande à te faire. Donne-moi ton fils. Parce qu'il sait que le fils est la source. S'il a la source, il ne mourra jamais pauvre. Beaucoup de gens ont accès à Christ, mais préfèrent prendre ce que Christ leur donne au lieu de garder Christ. Et tu perds la source. Amen. Et je termine en 6e caractéristique du désert. Le désert est une école de perfectionnement. Dieu nous passe par le désert pour nous perfectionner. Le désert, c'est la meilleure école pour te perfectionner. Tu sais, hein, quand tu sais que les gens s'opposent à toi là quelque part, et puis tu arrives, même ton bonjour, il est plus souriant. Parce que tu sais qu'on est en train de te guetter. Voilà pourquoi les applaudissements n'aident pas tellement le potentiel à se développer. Frère, le diamant, c'est du charbon, mais c'est la pression du sol qui produit le diamant. C'est quand le diamant est enterré là, qu'il crie sous la pression du sol, qu'il crie sous la chaleur, que le diamant, que le charbon se transforme en diamant. Il y a trop de charbon ici. Il faut qu'on t'enterre sous la critique. Tu perds ta réputation, mais tu sors brillant, poli, par la grâce de Dieu. Et vous voyez, c'est que tu arrives à un point où Dieu te passe par le désert pour te perfectionner. Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour mourir. Je termine ce soir en disant, il y a deux types de personnes. Celles qui meurent dans les déserts et celles qui survivent du désert. Je vous ai présenté ces cas-là. Frère, il n'y a rien de plus bon qu'un désert. Il n'y a rien de plus bon. Le désert te rend meilleur. Ça distingue la médiocrité de la qualité. Ça distingue les champions. Les champions. Ça distingue les champions de ceux qui pensent qu'ils ont une vision, mais ils n'ont pas une vision. Il y a des gens qui souhaitent réussir. Il y a des gens qui veulent réussir et qui sont prêts à dormir 4 heures par nuit. Fatigués, comme dit Gédéon, mais poursuivants. Jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Je vais jusqu'au bout. Deux types de personnes. Dans un désert, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, dans un désert, il est important d'augmenter le temps de prière. Il faut prier dans un désert. Il faut prier. Il n'y a pas de désert qui se gère sans la prière. Augmenter le temps de prière. Augmenter le temps de prière dans un désert. Deuxièmement, dans un désert, il est important pour vous d'apprendre à consulter Dieu. Consultez Dieu. Parfois, la voix de Dieu va être différente de la voix de vos sens, mais apprenez à consulter Dieu. Posez des questions à Dieu. Vous savez, dans un désert, tu souffres tellement, tu commences à poser à Dieu, est-ce que tu es vraiment gentil? Seigneur, est-ce qu'un père, vraiment, dit ça? Est-ce que vraiment, Seigneur, tu peux me conduire là? Tu commences à avoir des prières, conversations avec Dieu. Ou la nuit, tu te réveilles, hein, le sommeil est parti, tu dis, Seigneur, si tu fais rien ici, je suis foutu, hein. Enfin, ça, c'est mes prières à moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai prié comme ça au moins. Seigneur, fais quelque chose. Vous savez, je suis passé par un désert à mon aîné. J'ai commencé à chanter. Et si kangai na mitungisa, na guma melio. Et si kangai na talela bato, na taleli seyo. Hé, frère. Tu n'as plus de mots. Tu dis, Seigneur, je ne fais rien. Seigneur, fais quelque chose. Je suis au bout. C'est dans les déserts que je commence à chanter. Ma forteresse, c'est toi.
Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous, l'onction divine comble.
Et puis, je suis parti écouter l'original. Je dis, mais je le chante mieux que lui. Mais c'est la souffrance maintenant. C'est la souffrance qui me faisait chanter. C'est la souffrance. Et je dis, Seigneur, fais quelque chose de moi. On m'a dit, je suis fini. Mais tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, Abinzambe lokodanga na potulu, tombolangaï, foulangaï. Il a souffert, il a commencé à souffrir. Dans un désert, consultez Dieu, mais écoutez aussi le conseil de Dieu. Les textes de référence apparaissent. Dans un désert, faites l'évaluation de ce que vous avez et non de ce que vous n'avez pas. Jésus est avec la foule dans le désert. On dit qu'ils ont faim. Jésus leur pose la question, qu'avez-vous? Parce que dans un désert, vous pouvez faire avec ce que vous avez en main. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pas, nous avons passé des déserts parfois. Vous savez, mon épouse et moi, on est rendus spécialistes à préparer l'exéther. Vous connaissez l'exéther? Nous préparons l'exéther sanctifié. Oignon, tout, ta, ta, ta. Tellement qu'il y a des moments où tu as manqué de tout. Et puis, il te reste que l'exéther et l'oignon. Tu commences à passer à des combinaisons chimiques auxquelles tu n'avais pas pensé avant. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'il te reste que les chikwang et des œufs? Spaghetti au chocolat. Frères et sœurs, le désert. Tu deviens chef cuisinier, tu commences à découvrir des combinaisons bien à toi. Parce qu'il faut survivre. Mais Dieu t'apprend à faire avec ce que tu as en main. À faire avec ce que tu as en main. À faire plus vite, à faire plus rapidement, à faire plus efficacement. Dieu t'apprend au travers de ton désert à faire avec ce que tu as en main, parce que bien souvent, nous négligeons nos 5 pains et 2 poissons. C'est seulement 5 pains et 2 poissons jusqu'à ce que Jésus les touche. C'est seulement 5 pains et 2 poissons jusqu'à ce qu'ils soient abandonnés entre les mains du Créateur qui peut toucher les molécules et les transformer en une source de nourriture pour une foule. Dans votre désert, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut s'aimer dans votre désert. La Bible dit, Genèse chapitre 26, verset 12, que Isaac s'aima dans le désert. Tout désert est une opportunité de s'aimer. Dans nos déserts, Dieu met sur notre route des gens que j'appelle des porteurs d'abondance. Joseph était un porteur d'abondance. Des gens qui portent une certaine abondance. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité, pas parce qu'il l'aime, il peut le détester, mais il doit respecter la fonction. Il doit respecter la position. S'il donne à cet homme-là, en sa qualité, même s'il le déteste, il reçoit la récompense. En d'autres termes, il y a des bénédictions dans ta vie que tu peux attirer. Tu es dans les déserts, mais à cause du geste que tu as posé, tu attires une bénédiction. Dans le désert, il faut semer. Quelqu'un dit amen. Dans les déserts, il faut apprendre à écouter le conseil des gens expérimentés. Moïse est dans les déserts, en train de juger le peuple. Jéthro lui dit, mais non, tu vas t'épuiser. Dans le désert, vous savez, parfois on devient tellement négatif qu'on ne comprend pas qu'une des techniques de gestion, c'est d'écouter les gens expérimentés dans les déserts, comme moi là. Écoutez des gens, des papas qui sont passés par des déserts. Écoutez des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent nous donner des conseils. Et tu découvres que dans les déserts, parfois, il y a des combats qui ne sont pas nécessaires parce qu'il faut conserver l'eau. On a pris ta bourse, tu dis, si je couche, je vais gaspiller l'énergie. Je les laisse courir. Quand je boirai, je les rattraperai. Dans le désert, apprends à écouter le conseil. Combien de gens? Nous avons eu une sœur qui, à un moment donné, elle est décédée. Elle est décédée bêtement. À un moment donné, les fibromes ont juste éclaté. La sœur était dans la maladie. On dit, sœur, va voir le médecin. Ah non, il va me voir. Mais quand tu es morte, on t'a vu, non? Sœur, si tu avais été consulté, tu aurais vécu. Combien de gens, c'est seulement quand ils ont signé un mauvais prêt que le pasteur est au courant. Non, je veux que personne sache mes affaires. Frère, il faut dire, écoutez les conseils.
Et s'il y a un verbe qui revient dans la parole de Dieu régulièrement, c'est écoute, 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 écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel un. Écoute, 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 parle moins, écoute, demande, pose question, on va te conseiller. Et Moïse aurait pu mourir dans les déserts, mais c'est l'écoute du conseil de Jéthro par lequel Moïse a survécu. Amen. Septième chose dans le désert. Dans le désert, mes bien-aimés, il faut apprendre à avoir le contentement. Beaucoup de gens prolongent leur désert parce qu'ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Par la vie, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus riche que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux que toi. Mais une des choses qu'on doit faire, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. J'ai appris à m'adapter. Et une des choses qui nous tue, c'est que nous sommes tellement envieux des gens. Regarde, il y a des gens qui achètent des voitures juste parce que le voisin a acheté. Moi aussi, je dois montrer que je suis. Après ça, la voiture te montre que tu étais et que tu fus et que tu nous fumes. Frères et sœurs, il faut apprendre à faire un plan de ta vie et à faire des choses en ton temps. Il y a le temps. Le temps des sauterelles, c'est pas le temps des oiseaux. Amen. Il faut apprendre à faire des choses en ton temps, apprendre à te contenter. Si ton salaire, c'est, je ne sais pas moi, 1 000 euros par mois, mais vis au-dedans de 1 000 euros. Et tu trouveras que même donner la dîme n'est pas un problème. Si tu apprends à te contenter, tu apprendras. Seigneur, voici mes 1 000 euros, apprends-moi comment les gérer. Le contentement. À cause du manque de contentement, ma sœur, tu te payes une coiffure que tu peux pas te payer. Je connais des sœurs qui vont à l'endroit, on demande $150. Mais son mari ne travaille pas. Elle-même travaille, vous savez, un travail titubant là, où tu ne sais pas. Mais pourquoi tu te payes une facture de 150? Oh non, tous mes amis vont là-bas. Oui, tous tes amis vont là-bas, mais ton salaire peut pas aller là-bas. Contente-toi. Quand tu n'apprends pas à te contenter, tu sacrifies ton avenir. Tu sacrifies ton avenir parce que tu ne sais pas te contenter. Apprends à te contenter. Gère ce que tu as bien. Quand tu gères bien, Dieu va augmenter. Mais quand Dieu te donne un peu, tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas te contenter. Ce que tu fais, en général, en réalité, Dieu te dit, tu n'es pas mature pour ce qui est à toi. Apprendre à se contenter. Et finalement, dans la gestion du désert, 8e, Dieu nous envoie ce qu'on appelle des compagnons du désert. Ce sont des gens que Dieu met sur notre route, qui apprennent à pleurer avec nous, qui apprennent à gémir avec nous. La Bible dit que David était dans le désert. Il y a eu environ 500 hommes qui se sont joints à lui. Ils l'ont accompagné, ils ont pleuré avec lui, ils ont appris à le soutenir. Et souvent, on est tellement négatif que quand on passe dans un désert, que on ne comprend pas qu'une des techniques de gestion, ce sont des gens à, comment dire en français, des gens ponctuels que Dieu envoie. Ce sont des amis du désert, donc c'est pas des amis du trône. Ils sont bons dans les déserts, pas nécessairement pour le trône. Parce qu'un ami du désert, quand tu l'amènes au trône, il peut te coûter ton trône. Donc, c'est des gens que Dieu envoie juste pour t'accompagner. Il est gentil, il t'appelle tout le temps, ça va, c'est bon. Dès que tu sors du désert, il disparaît. Il a fini son travail. Et il faut apprendre à les reconnaître. Dans un désert, il faut apprendre à reconnaître ces gens-là. C'est des gens que Dieu met sur ta route afin que tu puisses aller de l'avant. Il y a ces 8 choses-là qui nous aident maintenant à gérer notre désert. Premièrement, augmenter le temps de prière. 2, consulter Dieu. 3, écouter le conseil de Dieu. 4, faire une évaluation de ce que nous avons. 5, s'aimer dans le désert. Amen. 6, écouter le conseil des gens expérimentés. 7, le contentement. Le contentement m'aide à mieux gérer, à moins envier les autres. 8, les compagnons du désert. Ce sont des gens que Dieu met autour de moi pour pouvoir m'accompagner. Je voudrais ce soir adresser ce message à monsieur et madame, des hommes et des femmes qui semblent que tu ne vois pas demain. Frère, tu n'es pas obligé de prolonger ton désert. Dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je ne voyais pas le chemin. Je pensais qu'il n'y avait pas de lendemain. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin. Si tu ne fais pas, Seigneur, je suis fini. Seigneur, je n'ai pas la force de continuer. Et tranquillement, Dieu a commencé à m'enseigner ces principes que je suis en train de vous enseigner ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, le Seigneur t'a parlé. Dis à ton voisin, le Seigneur t'a parlé. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Je vais inviter papa à venir prendre la chair. Merci Seigneur.
Nous espérons que ce message a contribué à votre édification. Pour avoir plus de messages, pour votre croissance et développement, et connaître les activités du ministère, visitez notre site internet au www.omerkabuya.com. Email info@omerkabuya.com. Nous vous invitons aussi à visiter notre assemblée si vous êtes dans la grande région de Montréal. Église CEP, 9353, boulevard Saint-Michel, Montréal, Canada. Visitez notre site internet au www.eglisecep.org. Email info@eglisecep.org. Numéro de téléphone 514-278-5042. Que le Seigneur vous bénisse.